Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin au micro de Chrétien d'Orient, c'est en compagnie de Yves-Marie Stranger que nous allons découvrir un pan méconnu de l'histoire éthiopienne par le biais de la légende du royaume du prêtre Jean. Un mythe qui a traversé les siècles et qui a occupé l'imaginaire européen depuis le temps des croisades et peut-être même avant, où les rois d'Europe avaient entendu parler d'un roi juste, pieux, bon, très chrétien, qui allait pouvoir les assister depuis l'Asie lointaine. Mythe, réalité, propagande peut-être, qu'en est-il donc ? Yves-Marie, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous vous êtes intéressé à la partie éthiopienne de ce mythe, de ce récit, qui vient donc bien après la période des croisades que j'ai un peu évoquée en introduction, puisque l'Éthiopie entre dans ce paysage historique et dans cette géographie surtout par les Portugais, qui commencent à traverser les océans, à découvrir le monde, à fonder des comptoirs sur toutes les côtes africaines à partir du 15e siècle. Et effectivement, ce seront eux qui porteront peut-être ce mythe ou pas. Nous allons l'explorer avec vous dans cette émission, ce mythe du prêtre Jean. Voilà, un mythe qui, encore une fois, a été l'une des histoires les plus populaires parce qu'elle donnait espoir à ce Moyen-Âge angoissé peut-être avec cette fin des croisades, la confrontation avec les empires, les royaumes musulmans, la chute d'Édesse peut-être qui a porté l'idée par des Arméniens, par des moines nestoriens au 11e, 12e siècle qui portent ce vent d'espoir en disant qu'il existe un royaume chrétien d'Asie lointaine qui viendra nous sauver. Voilà. Avant d'entrer dans le détail plus précis de cette épopée et de cette coloration éthiopienne, vous êtes vous-même un passionné d'histoire. Vous êtes voyageur, vous êtes écrivain, vous avez habité et parcouru l'Éthiopie pendant une vingtaine d'années. Quelques mots sur cette Éthiopie chrétienne que vous avez rencontrée.
Cette Éthiopie chrétienne, c'est donc une Éthiopie des hauts plateaux, qui est un milieu très particulier. Entre 2000 et 3000 mètres. C'est donc une Afrique tempérée, avec un climat extrêmement salubre et des populations, des densités très importantes depuis longtemps et encore plus aujourd'hui. Et c'est un milieu très particulier en ce qui concerne son christianisme, qui est un christianisme qui arrive dans la corne de l'Afrique au tout début du 4e siècle, donc c'est cela en fait, me semble-t-il, le deuxième royaume, le deuxième pays du monde à adopter le christianisme comme religion d'État. Et c'est un christianisme qui a une très grande influence de l'Ancien Testament, avec beaucoup de pratiques qui, à nous, en Europe, nous sembleraient assez hébraïques, hein, qui ont donc trait à l'alimentation, aux interdits alimentaires de la loi mosaïque, la circoncision, les régimes alimentaires de tout un chacun.
Le rituel des abattages du bétail.
Les rituels d'abattage du bétail. Et que l'on voit aussi dans les populations juives, que l'on a longtemps appelé Falacha et que l'on appelle maintenant Beth Israël, donc juif, la maison d'Israël, évidemment, alors que Falacha voulait dire exilé, donc était un terme assez insultant. Donc on a une église qui est maintenant autocéphale, après avoir longtemps trouvé ses patriarches auprès de l'église copte d'Alexandrie. Elle élit ses propres patriarches depuis 1956, me semble-t-il. Donc voilà donc pour un aperçu de ce monde chrétien qui a été une religion d'État, qui a été un mouvement culturel tout comme l'Occident, qui a formé l'histoire du royaume abyssin puis de l'Éthiopie, et qui, même s'il y a une grande présence de la religion musulmane et puis aujourd'hui également d'églises protestantes, cela reste un facteur culturel probablement déterminant dans la constitution de ce qui fait toujours aujourd'hui le pays que l'on appelle l'Éthiopie.
Alors, c'est l'histoire aussi d'une famille impériale, d'une famille royale, le dernier étant Haïlé Sélassié, pour terminer un petit peu cette boucle qui se revendiquait d'une descendance avec le roi Salomon, je crois.
Alors oui, c'est donc la dynastie solomonienne qui a puisé ses origines dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et à travers la Bible et puis à travers la réécriture du mythe, de l'histoire de la reine de Saba, en se l'appropriant, probablement en traduisant à partir de textes arabe, probablement d'origine copte, et qui en fait une sorte de destinée manifeste qui va ensuite servir de fil conducteur pour la constitution d'un État fort appuyé de nouveau, certes comme en Europe, on peut y trouver des reflets, sur une Église forte et une monarchie temporelle forte.
Le royaume du prêtre Jean, alors, venons un petit peu à notre sujet. Les croisades se terminent, le roi oriental asiatique qui devait venir nous sauver, entre guillemets, principalement après la chute du comté d'Édesse au XIIe siècle, n'est pas venu. Alors peut-être s'agissait-il d'un roi mongol, d'un roi turc. On sait que beaucoup de tribus se sont converties ou sont devenues bouddhistes, chrétiennes, par cette forme orientale du christianisme qui était appelé le nestorianisme. Donc on savait qu'il y avait du christianisme dans ces coins lointains et perdus. Comment le mythe est-il passé alors de cette zone centrale asiatique à l'Afrique? On avait besoin d'y croire, peut-être.
Alors déjà, je reprendrai un peu ce que vous venez de dire, parce que justement, Édesse, qui tombe, c'est un grand choc pour la chrétienté en général, et aussi en Éthiopie. Parce que les Éthiopiens ont bien sûr une présence très forte à Jérusalem, depuis le tout début de leur église. C'est un lieu de pèlerinage, tout comme pour les autres églises en Occident, et on dit que la capitale moyenâgeuse de Lalibela, on dit qu'elle a été construite en réponse à la chute d'Édesse. C'est-à-dire que cette chute, qui a vraiment été une grande commotion culturelle, politique, l'a été également en Éthiopie. Alors déjà, c'est un bon point de départ, parce que on peut voir, on peut penser que donc cette création, comme vous l'avez dit, création, auto-création, bi-création du prêtre Jean, soit une réponse à une situation qui est vécue comme étant désespérée. C'est-à-dire tout est perdu, il faut imaginer qu'il y ait un coup du sort, un miracle, et ce miracle, ce serait un allié puissant, juste, etc. Et donc voilà, on pose ce personnage d'abord en Asie. Notre connaissance à l'époque de l'Asie allant grandissante, c'est plus tout à fait possible de le voir là-bas. Il n'y est pas. On envoie des émissaires viennent, prêtre Jean ne connaît pas. Et c'est à ce moment-là que on va remettre ce personnage en Afrique, qui est la seule région que l'on ne connaisse pas, région limitrophe de la Méditerranée.
On connaît les côtes, mais on connaît peu l'intérieur des terres.
On connaît les côtes, on connaît l'Égypte, on connaît l'Éthiopie par ce qu'on raconte les Éthiopiens qui arrivent à Jérusalem. On connaît l'Éthiopie par les textes antiques, par Pline, par
Strabon.
Strabon, Hérodote. Donc on a percé. On a Saint-Georges, on a tous ces mythes et ces histoires, avec ce mélange de mythes et d'histoires qui caractérise l'Antiquité.
Mais on ne sait pas trop si c'est en Afrique, si c'est en Inde, et même si c'est en Afrique, on ne sait pas vraiment où le mettre, en fait.
Classiquement, tout ce qui est à l'est du Nil est dit être en Inde. Voilà, d'où la confusion, en partie. Et il faut aussi dire que dès le tout début de l'instauration du mythe du prêtre Jean, il y avait déjà quelques voix qui disaient « Non, 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 c'est un Éthiopien qui a apporté ce message. » Alors, depuis le tout début, on avait gardé ce fil de l'histoire comme on réserve. Et puis, à partir du 15e, c'est cet élément-là qui va devenir dominant, et en particulier avec les navigateurs portugais qui vont commencer à étendre leur route maritime avec Vasco de Gama jusqu'en Inde, Bartolomeo Dias en premier qui va passer le Cap de Bonne-Espérance, et qui vont remonter à travers l'océan Indien, et également non seulement vers l'Inde, mais vont remonter vers la Corne de l'Afrique et vers la mer Rouge. Et c'est à ce moment-là que les premiers contacts vont être instaurés avec le royaume chrétien d'Éthiopie.
Dans Chrétiens d'Orient ce matin, nous sommes en compagnie de Yves-Marie Stranger, écrivain, voyageur, traducteur, pour nous poser et réfléchir autour de la question « L'Éthiopie, royaume du prêtre Jean » avec un point d'interrogation en effet. Alors nous sommes dans ce contexte où les Portugais arrivent, découvrent ce royaume et finalement l'influencent d'une certaine manière. Est-ce qu'ils avaient déjà l'idée de trouver ce royaume du prêtre Jean, ou est-ce qu'en découvrant l'Éthiopie chrétienne, ils vont pas l'utiliser finalement pour assouvir leur désir de possession ou d'influence?
Alors, c'est un peu des deux. Alors, premièrement, il faut dire très clairement que c'est plutôt les Éthiopiens qui, en premier, vont découvrir l'Occident. Et les Éthiopiens, comme on l'a dit tantôt, voyagent à Jérusalem, mais pas seulement à Jérusalem, où, bien sûr, il y a une présence de prêtres, de moines éthiopiens, depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui. Il y a un monastère orthodoxe éthiopien présent à Jérusalem. Mais ils vont également être présents dans des conciles religieux. Il va y avoir une présence éthiopienne à Florence, à Constantinople, des ambassades qui viennent visiter plusieurs papes. Et de concert avec ces visites religieuses, il y a aussi des visites à des rois, notamment par exemple au royaume d'Aragon, où un échange matrimonial va même être proposé. Les Éthiopiens proposent que le royaume d'Aragon envoie une princesse de sang pour qu'ils se marient chez eux, et eux-mêmes proposent donc de fournir un prince pour faire une alliance temporelle, pas religieuse, temporelle. Et on voit là que les Éthiopiens cherchent un soutien pas tant religieux, mais un soutien technique, militaire, on dirait aujourd'hui technologique. Et il y a un fait qui est très important dans toutes ces ambassades, c'est que les religieux occidentaux, mais aussi les géographes, les historiens, les écrivains, ont une immense curiosité face à ces Éthiopiens, qu'ils ont lu dans les textes antiques, assez pour se poser la question, pas pour savoir précisément ce dont il s'agit. Et ils commencent à leur poser la question sans cesse, mais alors, ce prêtre Jean, où en est-il? Où est-il? Et est-il vrai qu'il a des éléphants munis de croix? Est-ce qu'il est vrai qu'il a 100 millions de soldats? Et toutes ces histoires qu'on avait pu lire, tout d'abord dans cette lettre du prêtre Jean, qui était arrivée dans les années 1160. Et tous ces Éthiopiens vont n'avoir cesse, durant toutes ces ambassades, ces visites en Europe, de dire « Mais écoutez, vous êtes bien gentils, mais le prêtre Jean, nous, non, on ne connaît pas. Notre roi s'appelle un tel, un tel, un tel. C'est un empereur, ce n'est pas un prêtre. Oui, on a une église alliée au pouvoir temporel, mais ils ne sont pas confondus. Mais les Occidentaux ne veulent pas entendre. Il y a, bon, voilà, ils sont sourds. C'est pas,
ils
c'est
veulent pas,
pas
écouter
c'est pas
cette réalité,
non,
finalement. Ils veulent continuer à croire à ce mythe merveilleux.
Ils veulent y croire. Ils ont besoin d'y croire.
Voilà. Et donc on est à la fin du Moyen-Âge, donc on a besoin de ces croyances, finalement, qui deviennent des légendes populaires, pratiquement.
C'est une légende populaire. Populaire, et quand on dit populaire, ça ne veut pas dire qu'elle est juste dans le peuple, parce que voilà, même les rois, même les élites y croient, à tel point que le royaume du Portugal va envoyer un émissaire avec des lettres adressées au prêtre Jean.
Voilà. Alors.
Ce premier émissaire qui s'appelle Pero de Covilha, pardon pour le manque d'accent portugais, mais il va arriver donc à la toute fin du 15e. Il va arriver en Éthiopie, qui à l'époque est régie par un roi qui s'appelle l'empereur Alexandre, ou Eskander, et bien évidemment, qui va dire à cet envoyé, non, prêtre Jean, non, moi c'est Alexandre, mon nom. Et mais ça va continuer. Donc, par exemple, Vasco de Gama et tous les autres navigateurs portugais qui font le tour de l'Afrique à cette époque, Bartolomeo Diaz et tous les autres, sont tous munis de lettres adressées à ce prêtre Jean. Et on leur dit toujours la même chose. On leur dit toujours, oui, il y a un prêtre Jean, mais un peu plus loin. Plus à l'intérieur. Allez donc un peu plus loin. Et bien sûr, c'est la même histoire qu'en Asie, c'est-à-dire que on va un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin, jusqu'à peut-être, on va dire, Magellan et la rotondité de la Terre, et puis au final, on ne va pas le trouver, ce prêtre Jean. Mais ça va continuer pendant quasiment un siècle, par exemple, on a donc la première ambassade officielle, donc pas cet envoyé singulier, Pedro de Covilha, mais une grande ambassade qui va arriver à la cour du prêtre Jean. Et ça, c'est dans les années 1521. Et cette ambassade va y passer cette année. Et c'est très bien décrit dans le livre. D'ailleurs, le Francisco...
Parce qu'on a des comptes rendus, les gens ont écrit sur ces...
Non, voilà. Donc on a un compte rendu splendide du chapelain, si c'est bien mon français, du chapelain de l'expédition, Francisco Alvarez, qui écrit un très très beau livre de retour en Europe. Et non seulement il utilise le mot prêtre Jean dans son livre, alors qu'il sait très bien, pour y avoir vécu cette année...
Il n'est pas dupe.
Non,
donc lui-même participe à la continuité de ce mythe.
Alors il y participe parce qu'il dit alors on arriva à la cour du prêtre Jean, et le prêtre Jean, quand il se déplace, il a beaucoup de chevaux, d'hommes, de bagages. Donc il utilise ce terme sans cesse. Et puis son récit, qui est un des textes les plus importants pour notre connaissance de l'Éthiopie de ce moment-là, au point de vue anthropologique, historique, enfin c'est splendide, ça se lit vraiment très très bien, mais ça va être, le titre de cet ouvrage va être, donc c'est peut-être pas lui qui en est responsable, ça on le sait pas, il me semble que le livre est sorti l'année même de sa mort, ce qui me laisse un peu dubitatif sur le titre, mais le titre c'est « Relation ». Une relation vraie d'un voyage dans les terres du prêtre Jean des Indes. Alors que, un, il revient d'Éthiopie, et deux, il n'a jamais trouvé le prêtre Jean. Mais ça continue quand même.
On veut y croire, voilà. Et c'est un livre qui a été mis en circulation.
Ah oui, c'est un livre qui a été beaucoup lu, et qui est toujours beaucoup lu aujourd'hui. Parce que on a très peu de textes d'une telle profondeur. Il décrit les langues, les gens, les coutumes de la cour. Comment la cour militaire, le camp, parce que à cette époque-là, le prêtre Jean ou le roi, l'empereur d'Éthiopie, se déplace dans des camps mobiles, mais avec un agencement très spécial. Et donc il décrit tout ça d'une façon extrêmement fouillée.
Alors pour terminer sur cette épopée portugaise, l'émission malheureusement va se terminer bientôt, une date, les Portugais sont expulsés je crois au milieu du XVIIe siècle, 1664.
Alors on va revenir là-dessus, juste, vite, l'expulsion des Jésuites se fait en 1636, l'expulsion finale. Lorsque l'on parle de l'expulsion des Portugais de 1669 par le fils de l'empereur Facilides, c'est une expulsion des descendants éthio-portugais que l'on appelait les Bourtoucanes. Et donc tout ce que l'on sait, c'est que un ordre, un édit est donné d'expulser les derniers de ces populations qui refusent de renoncer à leur foi catholique. Mais on ne sait pas s'il s'agit de 20, 100, 300 hommes et femmes. On sait assez peu de choses. Ce qu'on sait, c'est que ces populations mélangées ont fini par constituer plusieurs milliers de personnes au sein de cette Éthiopie des hauts plateaux, donc, et qu'ils ont eu une très grande importance au point de vue architectural, au point de vue théologique dans les débats qui ont ensuite été très aigus au sein de l'Église orthodoxe. On ne va pas rentrer dedans, c'est compliqué, et qu'ils ont eu donc une grande influence pendant quasiment un siècle et demi. Et c'est un chapitre méconnu et très intéressant de cette histoire.
Vous allez d'ailleurs en produire un film documentaire, hein, on le mettra sur le site internet, tout comme la référence de l'ouvrage dont vous avez parlé tout à l'heure. Je ne voudrais pas terminer cette émission sans mentionner une personne que nous avons eue en commun, un grand ami qui nous... Ça a hélas quitté trop tôt, c'est Jean-Michel Cornu de l'Enclos, voilà, qu'on a connu tous les deux. Nous connaissons Yves-Marie, on a parcouru une partie de ces hauts plateaux éthiopiens. Voilà, Jean-Michel a été un point phare entre nous, une amitié forte, un grand voyageur. Et pourquoi je le mentionne, c'est qu'il avait fondé ces éditions de l'Archange Minotaure et qui nous a permis aussi de recevoir ici Jacques Mercier. On avait parlé de l'Éthiopie et d'autres personnages encore. Voilà, l'émission se termine. Maintenant, merci Yves-Marie.
Merci à vous. Et merci d'avoir rappelé notre souvenir Jean-Michel Cornu, qui a été une grande figure pour moi et qui a une grande influence sur mes expériences éthiopiennes.
Je tiens à remercier Dany Journeau, Anne-Catherine Lochard et Jean-Michel Bernot pour la réalisation de cette émission que vous pouvez retrouver en balado-diffusion ou podcast sur notre page internet. Bon dimanche.